Comment dire « je » ? Je suis, je, moi, celui qui est là, devant, debout, individu, je est un autre. Tiens, voilà du Rimbaud, Madame Bovary, c'est moi. Tiens, voilà du Pipeau, Flaubert n'a jamais écrit cette phrase célèbre. Alors, qui suis-je ? Question sans fin.
Pascal Paradou.
Je suis Malika. Affirmation forte, affirmation folle, quand on sait que c'est son fils qui écrit ces mots. Je suis Malika, un personnage de roman, une femme forte, la mère de Abdellah Taïa, aujourd'hui notre invitée pour son livre « Vivre à ta lumière ». Bonjour Abdellah Taïa.
Bonjour.
Née au Maroc, vivant en France, depuis 20 ans, vous avez écrit une dizaine de livres où la fiction et votre histoire personnelle sont intrinsèquement mêlées, comme une impossibilité de faire autrement.
Oui, je crois que je n'ai pas un autre talent. Je suis obligé de voler tout dans la vraie vie pour écrire.
Et ce que l'on lit est votre vie, pas exactement.
L'essentiel de ce que j'ai écrit vient de ma vraie vie, pas seulement la mienne, mais aussi les gens autour de moi, ma famille, des gens que j'ai aimés, ce que je regarde dans les rues, voilà, ce qui me frappe. Mais ça ne vient pas d'une fiction qui n'a rien à voir avec ma vision du monde ou la vision de ceux qui m'entourent.
Malika est donc le prénom de votre mère.
Malika, ce n'est pas vraiment le prénom de ma mère. Ma mère s'appelait Mbarka Al-Lali. Et là, parce qu'il y a eu des choses qui ont été inventées pour le besoin de ce roman, je me suis dit qu'il fallait lui donner un prénom qui l'honore encore plus. Malika en arabe veut dire reine. Il n'y a pas de reine au Maroc, mais il y avait bien une reine qui s'appelait Mbarka Al-Lali.
Donc quand vous écrivez « Je suis Malika », vous êtes dans la peau de votre mère et en même temps, il y a ce léger décalage du prénom.
J'ai l'impression que je n'ai même pas besoin de réfléchir à cette question-là. Je suis la voix de ma mère, d'autant plus qu'elle n'est plus de cette vie. Elle est décédée en 2010. Et depuis cette date-là, j'ai l'impression que moi, j'ai compris que ma voix, c'est-à-dire tout ce qui sort de mon corps, c'est le prolongement de ce qui sortait, de ce qui existait dans le corps de ma mère. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est même pas une technique littéraire. C'est une réalité, pour moi, objective, biologique, une continuité du corps de ma mère. Je suis la continuité du corps de ma mère au sens propre et du coup, mon écriture aussi.
Mais c'est un peu étrange de dire ça, de penser ça. Ça pourrait presque voisiner la folie.
Non, pourquoi ?
Si je dis « je suis Geneviève », qui était le nom de ma mère, c'est très étrange, d'autant qu'un enfant souvent ne nomme pas sa mère avec son prénom. Comment vous appeliez votre mère ?
Ma mère, je l'appelais Moui, c'est-à-dire maman, en arabe dialectal marocain. Non mais pour moi, alors si c'est une folie, c'est une merveilleuse folie, une folie à encourager et certainement pas à empêcher les gens d'entrer de plus en plus dans cette folie. C'est-à-dire on sort du corps de la mère. On sort de tout ce qu'il a traversé pendant des années et des années. On est resté dans ce ventre, c'est-à-dire totalement sous la merci de ses coups de fureur, comme sous le coup de ses humeurs. Donc, qu'on le veuille ou pas, on n'échappera jamais à son empire de cette femme. Et puis, l'écriture, de toute façon, aime la folie, donc vive la folie pour pouvoir écrire.
Mais Malika, votre mère, a-t-elle dit je, un jour dans sa vie?
Ah bah oui, et comment qu'elle l'a dit? Elle n'arrêtait pas de parler, elle s'en fichait complètement de ce que nous, on pouvait penser dans la maison, puisqu'elle avait décidé dès le départ ce qui devait être pensé, appliqué et réalisé jusqu'au bout. Elle devait nous nourrir 10 personnes 3 fois par jour. Elle n'y avait absolument rien pour leur donner de quoi manger. Pourtant, elle s'est débrouillée et elle a fait ça pendant, je crois, au moins 44 ans. Donc oui, elle parlait, elle disait « je », pas dans le sens que voilà de Rimbaud, ou bien le sens que je donne moi, ou bien le sens de notre époque aujourd'hui. Et pourtant, elle était parfaitement engagée dans la société marocaine des années 50, 60, 70, 80 et 90, et elle n'avait pas peur de la police, et encore moins du roi du Maroc.
C'est un portrait, en effet, de femme forte, très très combative, parce que vous dites qu'elle devait nourrir 10 personnes, elle avait 9 enfants. Donc c'est quand même une très grande famille, parfois un peu dure, somme toute.
J'ai longtemps pensé la même chose, que ma mère était trop dure et qu'elle était impossible de lui faire changer ses idées à l'intérieur de sa tête. Mais aujourd'hui qu'elle n'est plus là, je comprends parfaitement, je passe ma vie à dire « Oh là là, elle avait raison, elle avait raison, elle avait raison ». Donc c'est terrible cette chose qu'il faut que quelqu'un parte définitivement pour qu'on voit qui il est, qui elle est réellement. Elle était dure, elle était, elle ne consultait pas le mari, elle ne consultait pas trop les enfants, mais tout ce qu'elle a fait, c'était pour cette famille-là, pour pouvoir les nourrir, pour pouvoir les sortir de la pauvreté, les pousser aux études, et aussi pour les préparer à ce que c'est le monde et la vérité. Elle ne leur disait pas « tout est beau, soyez honnête, soyez gentil, avec le bien, vous allez y arriver ». Elle leur faisait comprendre ce que c'est la société coloniale, la société marocaine, les riches, les pauvres. Ma mère était comme ça, elle s'en fichait complètement qu'on dise d'elle que c'était une femme bien. Ça lui faisait rien.
Vous l'admirez plus aujourd'hui qu'avant, quand vous étiez gamin?
Non. Je l'admirais déjà à l'époque, parce que quand on sortait par exemple tous les jours pour aller acheter des légumes ou bien pour aller dans une administration, il fallait bien négocier avec tous ces gens-là qui représentent chacun à son niveau le pouvoir. Il fallait bien les amadouer, il fallait bien les supplier, se faire humilier par eux, pas une fois ou deux fois par semaine, mais c'était tous les jours pendant des années et des années. Et ces choses-là, ces humiliations-là, non seulement ils n'ont pas réussi à la casser, cette femme, mais en plus, dès qu'on rentrait à la maison, elle passait son temps à tout déconstruire devant nous. Tous ces gens-là importants, ils ne valaient rien du tout à ses yeux. Elle les déconstruisait devant nous. C'est donc ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui la déconstruction sociologique ou déconstruction postcoloniale, ce genre de choses. Ma mère l'appliquait devant nous sans être passée par l'université.
Au quotidien.
Au quotidien. Elle n'aimait pas l'imam, elle n'aimait pas le boucher, elle n'aimait pas les voisines, donc elle passait son temps à les critiquer.
Vivre à ta lumière, c'est le titre de votre roman, Abdel Attaya. C'est un très beau titre, c'est un hommage en fait.
C'est un titre qui vient d'elle, de cette femme, de ces jours qui pouvaient durer des semaines et parfois des mois de désespoir, quand il n'y avait plus aucune possibilité de trouver une solution pour s'en sortir, pour nourrir, pour tout simplement marcher. Tout d'un coup, il y avait ce désespoir qui s'abattait sur nous tous. Et donc, vous voyez, 11 personnes dans le désespoir, dans 3 pièces, dans une famille trop pauvre. Donc, tout d'un coup, ça devenait trop. Quand elle ne trouvait plus de solution, elle partait dans les mausolées de saints de la ville de Salé, d'où je viens, notamment le saint Moula Ibrahim, et elle revenait avec une bougie. Et elle disait, je vous ai apporté la lumière. Aujourd'hui, quand je me souviens de ça, j'ai envie de pleurer parce que je me suis dit, cette femme, elle a fait ça pour moi. Aujourd'hui, il n'y a personne qui va faire cette chose-là aussi simple, aussi poétique et aussi importante pour moi. Quelqu'un qui va juste aller quelque part, il va me ramener une bougie qui ne coûte rien du tout, peut-être même 5 centimes d'euros, et qui va nous dire à tous, je vous ai ramené la lumière. Ça peut paraître grandiloquent ou quelqu'un dans le lyrisme total, et pourtant, c'était une solution réelle pour enlever le noir et pouvoir continuer dans la vie. Et c'est pour ça que je l'admire, cette femme. Que dans le désespoir le plus total, elle trouvait des petites solutions miraculeuses.
Abdel Attaya, vous étiez 9 dans votre famille, 9 enfants, ils sont 7 et ils font de la musique pop électro française. C'est Clone, un groupe familial donc, qui sort son premier EP. We'll be right back. West, extrait du premier meilleur album de Clone, et c'est sur RFI, évidemment. Abdellah Tayal, la musique de vos 16 ans, 17 ans, 18 ans, quand vous viviez au Maroc, c'était qui, c'était quoi?
C'était principalement des chanteurs arabes, égyptiens et marocains. La plus célèbre à l'époque, dans les années 80, c'était la marocaine Samira Saïd, qui a réussi à aller au Caire et elle est devenue superstar là-bas. Moi, je suis la génération Samira Saïd, parce que cette femme avait réussi à partir du Maroc, fâcher tout le Maroc et qui l'a détestée. Et puis elle s'est lancée dans le défi, elle est devenue superstar. Et jusqu'à aujourd'hui, Samira Saïd est toujours en activité. Et évidemment, il y a Abdelhalim Hafez, qui lui vient de la génération des années 50, 60, 70, que j'écoutais beaucoup, beaucoup. Tout ce qui est chansons françaises, chansons américaines, anglaises, c'était pour mon grand frère et c'était son territoire, donc on n'y touchait pas. Nous, on était des côtés des Arabes.
Alors, dans votre livre « Vivre à ta lumière », il y a une dimension autobiographique, on l'a dit, puisque vous racontez, vous écrivez le livre de votre mère, vous êtes la voix de votre mère, et vous êtes un peu absenté dans cette affaire, puisque le roman est bâti sur trois moments clés de la vie de votre mère, et dans aucun vous n'êtes là.
J'ai déjà écrit pas mal de livres il y a trop de mois, donc on va totalement oublier cet Abdellah Tayal et ses problèmes d'émancipation ratés, etc. Pour l'instant, il s'agit du livre de la mère, avec la voix de la mère, et puis surtout essayer de réparer quelque chose qui n'a pas été fait du vivant de cette mère, de ma propre mère. Je dois avouer que je fais partie de ces gens qui vivent avec une culpabilité énorme vis-à-vis de ma mère, parce que j'ai donné à des gens qui ne méritaient pas ce que je leur ai donné, et je n'ai pas donné à ma mère ce que je devais lui donner. Parce qu'une mère, on a beau le dire et le redire et le redire, ça sacrifie tellement, 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 tellement pour ses enfants. Et à un moment donné, la société moderne nous pousse presque à devenir aveugle face à ces sacrifices que font les mères et les femmes.
Mais alors, comment vous savez ce que vous racontez? Puisque vous n'étiez pas là, est-ce que c'est elle qui vous l'a raconté ou est-ce qu'il y a une grosse part de fiction?
Non, il n'y a pas de grosse part de fiction. J'ai vécu 25 ans quand même à côté de cette femme. Donc,
vous a parlé?
Non, elle ne me parlait pas à moi. Je n'étais ni son chouchou, ni son préféré. Le préféré, c'était le fils aîné. Et après lui, il y a eu 6 filles. Donc lui, il avait tout l'amour, le fils aîné. Et nous, on avait des miettes. Donc on se contentait des miettes, mais c'était pas plus mal, parce que ça nous préparait à la dureté de la vie, au combat de la vie. Donc cette femme, elle passait sa vie à parler et à re-raconter le passé, et re-raconter les origines, le bled d'où elle vient, la pauvreté d'où elle vient, et comment elle s'en est sortie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une femme qui était obsédée par l'idée de déconstruire tout, et notamment par l'idée de comment on peut y arriver en faisant un petit peu le mal.
Donc, première partie de ce roman « Vivre à ta lumière », Malika est toute jeune femme, elle va être mariée un peu de force à son cousin, on est dans les années 50 à peu près, et ce cousin dont elle tombe amoureuse part faire la guerre en Indochine.
C'est-à-dire que ses parents à lui, à cet homme, et la France le choisissent, décident à sa place presque qu'il aille faire une guerre qui ne le concerne absolument pas, aller là-bas, très 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 loin du Maroc, pour tuer des gens, tout simplement parce que c'est dans les intérêts de la France coloniale de l'époque. Malika, qui est très amoureuse de cet homme, elle n'est pas totalement forcée à se marier avec cet homme. C'est vrai que son père la vend un petit peu, mais elle est amoureuse déjà de ce mari. Et ce qui se passe, c'est que cet homme meurt là-bas. Et c'est le début de toutes les tragédies de cette femme.
Mais elle va se remarier? Elle va se remarier avec un homme avec qui elle aura donc eu beaucoup d'enfants. On est là dans les années 50. Mais ce n'est pas ce deuxième mariage que vous racontez, c'est sa relation avec une certaine Monique, une femme qui a la peau si blanche, qui vient de France, mais qui a quand même des origines marocaines, et qui veut embaucher sa fille, donc la fille de Malika, comme domestique. Et ça lui est insupportable.
Dans le premier chapitre, la France lui a pris son mari. Donc elle n'a même pas une tombe pour cet homme. Cet homme est allé si loin là-bas pour les intérêts de la France coloniale, et que même cette chose, avoir une tombe, on a privé Malika de cela. Dans les années 50, voilà que la France revient, après soi-disant la décolonisation, et qu'elle veut intervenir à travers le personnage de Monique dans la vie, dans l'intérieur des deux pièces que Malika a réussi à avoir avec son mari et ses enfants. Et Monique, avec son innocence, avec sa gentillesse, sa générosité, croit bien faire en décidant que la plus belle des filles de Malika, Khadija, sera sa bonne dans sa villa, dans les quartiers des Orangers. Malika, vu ce qu'elle a vécu dans le passé, ne peut pas laisser de nouveau la France intervenir dans sa vie et décider pour son avenir et l'avenir de ses enfants. Donc pour elle, encore une fois, elle est là face à une chose terrible et elle doit mener la guerre, c'est-à-dire faire comprendre aux autres qui vous pensent mieux que vous votre propre vie et décident à votre place de votre vie qu'ils n'ont absolument pas le droit de le faire. Et pour cela, elle lui donne un rendez-vous précis dans un lieu précis.
Et puis, troisième temps de ce roman, on est en 99, avant la mort d'Hassan II. Tous les enfants sont partis, dont Ahmed, le fils, qui est parti en France. Ahmed, c'est votre double littéraire. Hein, vous avez déjà utilisé ce prénom dans d'autres romans. Donc, elle n'a plus de nouvelles. Et elle a le sentiment que la France a pris son fils.
C'est-à-dire qu'elle a tout fait pour que ses enfants soient éloignés de cette idée de la France, parce que, vu ce qu'elle a vécu avec la France coloniale, et puis voilà que ce fils qui est homosexuel, le monde moderne, le monde occidental, lui remplit la tête que la liberté, l'émancipation ne peuvent pas exister auprès d'une femme comme Malika, ne peut pas exister dans un pays comme le Maroc et que forcément la liberté, l'émancipation ne peuvent exister et se réaliser que dans un Occident. Mais vu ce que Malika a vécu et subi de l'Occident, elle ne peut pas oublier tout cela. Donc elle est dans une impasse là avec ce fils-là. Quand il décide, lui, qu'il va partir à Paris pour vivre librement son homosexualité, elle lui coupe tout simplement les vivres. Elle ne peut pas cautionner une telle chose.
Donc c'est une façon de raconter par le roman comment la colonisation est agissante encore aujourd'hui, ou en tout cas à cette époque-là, dans la plus grande intimité des familles, des corps, des hommes et des femmes.
Mais jusqu'à aujourd'hui, on peut le dire. De toute façon, l'Occident, enfin, il y a plein de choses que moi qui me plaisent en Occident, mais en même temps, l'Occident, quand il veut brandir les drapeaux des droits de l'homme, il le fait. Quand il veut parler des intérêts de telle ou telle minorité sexuelle, il le fait. Et quand il veut les oublier, il le fait aussi. Quand il veut s'aveugler sur les intérêts économiques ou bien les ventes d'armes pour l'Arabie Saoudite ou bien pour certains pays africains, il peut sans problème, et de temps en temps il nous rappelle que c'est cette, comment dire, ce qui est très étonnant et très choquant, c'est de voir qu'en si peu de temps l'Occident est passé d'une puissance colonisatrice qui pille, vole les pays africains et asiatiques, en 2-3 décennies, ces mêmes pays sont devenus les pays qui représentent les droits de l'homme et qui non seulement disent qu'ils les représentent et que les autres pays anciennement colonisés représentent les pays qui tuent ceux qui veulent la liberté. C'est cette chose-là que représente Malika. Elle n'a pas oublié le temps de la colonisation et elle n'a pas oublié que les représentants de la colonisation existent toujours au Maroc à travers les riches marocains. Et elle ne peut pas accepter que son fils se vendent à ces entités-là, même homosexuel qu'il est.
Mais vous avez l'impression d'avoir été vendu ?
Moi, non, j'ai pas l'impression d'avoir été vendu, puisque dès que j'étais arrivé à Paris en 1999, ma conviction et mon but, c'était de conquérir la France et de conquérir les Français. Je n'avais absolument pas peur ni des éditions du Seuil, ni des éditions Gallimard. Je leur écrivais, j'appelais, ils me raccrochaient au nez, mais ça ne me faisait ni chaud ni froid. Je me disais, de toute façon, je n'ai pas vécu avec ces gens-là. Ils peuvent faire les arrogants, ils peuvent me tirer la gueule comme ils veulent. Ça n'a aucun effet sur moi. Et c'est comme ça que j'ai réussi à entrer aux éditions du Seuil. Ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. C'est-à-dire toutes les stratégies de survie que j'ai vu ma mère développer, c'est-à-dire que ceux qui vous humilient, c'est pas vous qui êtes humiliés, c'est eux qui sont qui s'humilient eux-mêmes. Vous n'avez qu'à continuer et à leur prendre un petit peu de leur pouvoir. C'est tout.
Extrait de votre livre, Abdella Taïa, c'est dans la troisième partie. Donc Malika est seule chez elle, elle a une soixantaine d'années, et un jeune homme de l'âge de son fils rentre chez elle pour la voler, la menace d'un couteau, et elle va raconter comment son fils est parti et ce que cela fait pour elle.
Ahmed s'est habitué à la France, à Paris. C'est vite, c'est vite. Il ne m'appelle plus. Il ne répond pas quand je l'appelle. Je vais chaque jour dans la téléboutique d'à côté, celle de Mourad, le fils de Naïma. Je lui donne le petit bout de papier où il y a le numéro de téléphone d'Ahmed là-bas. Il compose le numéro en prononçant les chiffres à haute voix. Mourad dit, Ça ne répond pas, Malika. Ça sonne, ça ne répond pas. Je lui demande de réessayer. S'il te plaît, Morad, s'il te plaît, s'il te plaît. Ça ne répond toujours pas, Malika. La phrase de Morad est devenue le refrain de ma vie depuis quelques semaines. Ça ne répond pas. Je le connais par cœur à présent, le numéro de téléphone d'Ahmad en France. 00 33 1 45 82 20 35. Et un jour, ça ne sonne plus. Ça ne sonne plus, il a dit Morad. Je suis désolé, je suis désolé. Ça dit numéro non attribué.
Vivre dans ta lumière, extrait de votre nouveau roman, Abdella Taïa, avec cette femme qui se désole du départ de son fils, mais qui sait pourquoi il est parti, qui a du mal à le dire, qui a du mal à prononcer les mots, mais elle sait très précisément pourquoi il est parti. Et ce jeune homme qui vient la cambrioler, en fait, est un miroir, est un double de son fils.
Oui, il s'appelle Jafar, c'est un ami d'enfance d'Ahmad. Il vient, donc ce Jafar, il est voleur, homosexuel. Il vient de sortir de prison et il veut retourner en prison parce qu'il trouve que la société marocaine, le pouvoir marocain n'a rien fait pour la jeunesse marocaine et que le pouvoir n'a fait que construire des prisons ou à mettre tous ceux dont il ne veut pas, dont il a abusé, abîmé la vie. Donc il veut retourner en prison. Pour cela, il a besoin de faire du mal à quelqu'un. Donc il entre dans la maison de Malika une fois vieille que tous les enfants sont partis et il veut la cambrioler, lui faire du mal et comme ça il revient en prison où il y a celui qu'il aime. Et tout le troisième chapitre, c'est un dialogue entre Malika et ce jeune voleur homosexuel, aussi bien sur l'état de la jeunesse marocaine d'aujourd'hui, en 99, mais aussi aujourd'hui. Et aussi, c'est l'occasion pour Malika de se confronter avec cette idée, qu'est-ce qu'elle n'a pas fait pour protéger son fils homosexuel. En fait, quelque part, on est tous poussés à dire que nos parents étaient homophobes, qu'ils ne nous ont pas protégés. Mais en fait, nos parents n'ont pas été homophobes. Ce sont les sociétés, le pouvoir qui ont rendu nos parents aveugles sur leurs propres enfants lesbiennes, transgenres et homosexuels. Et le pouvoir n'a pas aidé nos parents à nous comprendre et à nous aider dans la vie. Ils continuent de le faire jusqu'à aujourd'hui au Maroc et dans plein de pays. Et ce chapitre-là, il parle de cette question précise. Qu'est-ce qui fait que même les parents ne voient pas leurs enfants et que les enfants, pour s'émanciper, ils oublient leurs parents.
Et il y a cette difficulté à dire le mot qui est Zamel en arabe.
Parce que c'est une honte, c'est une honte.
C'est une insulte.
C'est une insulte, c'est quelque chose d'extrêmement honteux. Non pas parce que c'est la mère qui le veut, mais parce que c'est la société, le temps et l'histoire qui a fait que cette chose, l'homosexualité, devienne une telle honte et un tel handicap, même pour une femme comme Malika, qui a besoin de s'en sortir de la pauvreté. Elle, dans ses stratégies multiples pour s'en sortir de la pauvreté, elle n'a rien pu faire pour ce fils PD.
Cette histoire, vous l'avez vécue, Abdella Taïa,
oui.
Car vous êtes l'un des rares intellectuels à avoir dit « je suis homosexuel »,
oui.
Comme un défi, comme une provocation, comme une évidence.
Non, comme quelque chose de... Je ne sais pas comment dire ça. On n'a qu'une seule vie et je ne vais pas passer ma vie à faire plaisir à tous ces gens qui non seulement m'ont violé, insulté, jeté des pierres, qu'ils soient des gens fonctionnaires dans le quartier ou même des universités, mes professeurs à l'université à Rabat. Pareil, tous ces gens-là, même pareil, ils me regardaient d'une certaine façon, c'est-à-dire dès qu'on va te croiser dans une ruelle, on va te faire baisser le pantalon. Non pas par revanche, mais rien que pour les faire rougir de honte, je vais dire toute ma vérité, je vais dire tout ce qu'ils font à nous, pour nous empêcher d'exister, juste de vivre, tout simplement. Et il faut dire que le pouvoir les aide, ces assassins et ces criminels.
Mais il vous a fallu partir, quand même.
Je suis parti parce que j'étais encore très pauvre et qu'il fallait que j'existe quand même quelque part sans le regard de ma mère et de la société marocaine. Je ne suis pas parti parce que je me disais « Paris va me sauver, va me donner la liberté ». Dès que j'étais arrivé à Paris, j'ai bien vu que je n'étais qu'un arabe et qu'un musulman et qu'il a fallu mener la guerre encore plus fort et plus loin que ce que je faisais au Maroc. Et d'une certaine façon, jusqu'à aujourd'hui, en 2022, avec les élections que nous venons de vivre, cette guerre je dois encore la mener dans la France d'aujourd'hui.
Vous lisant, j'ai pensé à Jean Genet, auteur français.
Il est enterré au Maroc.
Écrivain, cinéaste, qui a toujours cultivé la marge, mais qui était aussi très, très engagé, dont l'un des livres majeurs est publié en 1949, c'est Le Journal du voleur, et qui est aussi là, un récit autobiographique, mais fictionné. Jean Genet, lisant un extrait de ce journal.
De la planète Uranus, paraît-il, l'atmosphère serait si lourde que les fougères sont rampantes. Les bêtes se traînent, écrasées par le poids des gaz. À ces humiliés toujours sur le ventre, je me veux mêler. Si la métempsycose m'accorde une nouvelle demeure, je choisis cette planète maudite. Je l'habite avec les bagnards de ma race. Parmi d'effroyables reptiles, je poursuis une mort éternelle, misérable, dans des ténèbres où les feuilles seront noires, l'eau des marécages épaisse et froide. Le sommeil me sera refusé. Au contraire, toujours plus lucide, je reconnais l'immonde fraternité des alligators souriants.
Abdellah Taïa, vous reconnaissez dans ce que dit Jean Genet, cette race des bagnards et des humiliés toujours sur le ventre?
Oui, et puis les tigres affamés, j'étais parmi eux, et même si j'étais abusé par eux, j'étais aussi un tigre, aussi affamé et aussi féroce qu'eux. Donc voilà, je n'ai jamais écrit, c'est pas parce que j'ai dit l'homosexualité que je me suis auto-victimisé, bien au contraire. Donc je ne fais que moi aussi que de sortir mes griffes, et c'est très très bouleversant d'écouter la voix de Jean Genet.
Qui est rare, parce qu'il y a très 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 peu d'archives, et il faut remercier la Sonothèque de RFI d'avoir retrouvé ce son. Alors on parle de Genet, mais en même temps vous avez fait un doctorat sur le roman libertin au XVIIIe siècle en France, et vous êtes spécialiste du peintre français Fragonard. Ça peut paraître un peu surprenant, non?
Oui, mais il faut bien se spécialiser de quelque chose, puisque il fallait bien maîtriser la langue française, et il fallait aller loin, 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 en tout ce qui est la France, la culture de la France. J'ai fait un mémoire sur cette page de la recherche du temps perdu de Marcel Proust, l'épisode des clochers de Martinville. Non, je connais très 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 bien, mais là, heureusement pour moi que tout ce que j'ai fait comme étude n'a pas influencé ce que j'écris. Moi j'ai envie d'écrire avec le rien dans lequel j'ai vécu, et même en français j'ai l'impression qu'il ne faut pas qu'il soit trop riche, il faut qu'il soit pauvre comme la pauvreté dans laquelle je suis né.
Mais le français est une langue tardive pour vous. Vous l'avez maîtrisée, vous aviez 18-20 ans à peu près.
J'ai commencé à vouloir la maîtriser à partir de 18 ans, et je ne l'ai maîtrisée réellement qu'à l'âge de 20 ans, 21 ans. Et j'avais tenu un journal intime où j'écrivais tout dans cette langue étrange, la langue des riches, en tout cas, c'est sûr, des Marocs. Et c'est cette confrontation avec cette langue qui ne m'appartenait pas, qui m'a transformé en écrivain dans cette langue, justement, avec laquelle je suis toujours en guerre.
Mais elle vous appartient aujourd'hui, cette langue? Parce qu'il y a aussi les mots d'arabe qui s'invitent, Samel, Mektoub, Makhzem.
Non, mais il y a surtout le fleuve qui est souterrain en moi, le souffle de ma mère, de la pauvreté, des Marocains, les bagnards dont parlait Jean Genet, les prisonniers, les tigres. C'est ce souffle-là que je mets dans cette phrase, dans ces phrases en français. Donc, ce n'est pas le français respecté comme étant le français. C'est le français transformé, bousculé, avec lequel je suis en éternelle bagarre.
Mais vous êtes entre deux langues? Vous vivez entre deux langues? Non,
je crois que je baigne entièrement dans la langue arabe. C'est impossible à l'enlever. Le français ne vient que se griffer et entrer dans ce fleuve, dans le nid de ce fleuve qui est la langue arabe. Je ne peux pas enlever ce nid-là de moi.
Merci beaucoup Abdellah Taïa, n'enlevez rien. Vivre à ta lumière, votre nouveau roman, est édité au Seuil. De vive voix, Pascal Paradou, programmation Cécile Lavolo, David de Bocoué à la réalisation. Émission à réécouter sur rfi.fr et sur les réseaux sociaux.